Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Réparer les vivants, naissance d'un pont. Un monde à portée de main, oh corniche Kennedy, mais j'y comprends rien.
Mais ça peut rien
mais
dire,
non.
Au moins avec Marc Lévy c'est plus clair. Où es-tu?
Il cherche quelqu'un.
Voilà, et si c'était vrai?
Il veut savoir si c'est vrai.
Ah ouais, passe-moi le sel.
Il veut assaisonner son plat.
Ah mais... c'est un piège, il n'existait pas celui-là.
Ouais c'est malin, enfin moi j'en ai assez, jusque quand on va devoir s'occuper des invités? On est punis ou quoi?
Non mais attends, moi j'ai une idée, si on le fait mal, peut-être qu'elle va reprendre la main.
Ça c'est une bonne idée.
Voilà
mal.
Les cafés.
Merci Charline.
Et pendant ce temps vous êtes renseigné sur l'invité du jour, c'est Maïlys de Kerangal.
Alors oui justement, Kerangal, qui veut dire patate en breton.
Et c'est amusant parce que d'après mes informations, elle est cuisinière.
Oui, mais c'est n'importe quoi.
Non,
ça,
elle est accordéoniste.
Oui, parce que les bios sont pas d'accord.
Ouais, mais enfin, c'est une des plus grandes romancières contemporaines.
Ah bon?
Mais réparer les vivants, ça vous dit quelque chose?
Ça doit pas être facile de réparer des vivants, parce que
réparer les mobilettes, les robinets, les toitures, les
vivants. Mais dans réparer les vivants, Maïlys de Kerangal suit un cœur qui va d'un corps à l'autre.
Ah, elle est chirurgienne.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est gémeaux.
Mais enfin, Alex, ça n'a aucun intérêt. On va pas lui demander son horoscope.
Ah, je suis pas d'accord pour comprendre la personnalité de quelqu'un, c'est intéressant. Les Gémeaux, c'est le Gémeaux, c'est quelqu'un de très cérébral, plein de
gaieté. Bon, ok, d'accord, ça va, je reprends la main sur les invités, c'est bon.
Yes.
Non, attendez, vous savez ce que je vais faire, parce que vous partez tellement de loin que vous ne pouvez que progresser. Demain, je ne vous relis même pas.
Non, j'espère qu'on reçoit un accordéoniste, je viens d'imprimer toute une doc là sur le sujet.
Bon, j'appelle l'attaché de presse d'Yvette Horner.
Non, fais pas ça.
France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique et voici les trois informations qui seront traitées par le truchement de l'humour subventionné. Ils sont encore 3000 sur le carreau de Parcoursup, une situation qui n'est pas plus enviable que celle des recalés par le numerus clausus en médecine. Alors le jeune est-il victime de déterminisme?
Plus de 80% de réussite. Mais si je comprends bien, vous m'annoncez avec le sourire que nous avons eu plus de 20% de recalés.
Un Français sur 5 admet fouiller dans le téléphone ou l'ordinateur de son conjoint. Ah, elle est belle la France! Et quand la jalousie pousse à la surenchère, des applications permettent de pister soi-même les appels et les SMS.
Puisque je te dis que je te surveille pas! Merde, t'es où là?
Quitte à tout faire soi-même, suivons cette injonction. Fabrique ton jambon! Oui, c'est une invitation adressée aux clients d'une grande marque de charcuterie industrielle qui ouvre les portes de son usine.
Sentez comme ça sent le fil de bois. Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne. Tu sais qui tue encore jambon cru eux-mêmes, hein?
Lui, l'actualité, il en fait de la chair à saucisse. Alex Vizorek.
Me dites donc une petite transition non végane. Bonjour Charline Vanhoenacker.
J'aime pas trop.
Oui, j'ai bien compris. Autour de la table, une belle équipe évidemment aujourd'hui à 17h20. Il a joué dans Vive la République et dans Nos amis les flics. Autant vous dire qu'on ne le savait pas quand on l'a engagé. Hippolyte Giraudeau, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Du trompe-l'œil.
Très bien. Dis donc, mais vous avez donné une vraie information aujourd'hui.
Incroyable.
Vous êtes déstabilisé.
J'en reviens pas moi.
Oui. À 17h30, celui qui lui aussi est comédien, il tient le rôle de l'abeille dans les sketchs de Charline Vanhoenacker. C'est Guillaume Meurice. Bonjour.
C'est mon meilleur rôle. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du procès Booba Kaaris. Je suis allé devant le tribunal de Créteil. L'occasion de rencontrer les fans des rappeurs et discuter, par exemple, avec eux des chroniques de Clara Dupont-Mono.
Complètement pourrite. C'est de la merde.
On partage à peu près la même analyse.
Et enfin, vous l'avez légèrement défleuré. À 17h40, celle dont le rôle permanent est celui d'Aliénor d'Aquitaine. Et depuis, je lui propose des week-ends en amoureux à Biscarros en Aquitaine, mais ça ne prend pas. Bonjour Clara Dupont-Mono.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
De palettes, de pinceaux, de murs, du livre de notre invité.
Mais qui est cette personne?
Mais oui, qui est celle qui va présider cette séance de thérapie par la blague? Je vous laisse nous le dire, vous êtes... Maïlys de Kerangal.
Oh la classe.
Gémeaux.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Maïlys de patate alors.
Oh, magnifique.
Qu'est-ce que c'est cette patate histoire? C'est vraiment de Kerangal, ça veut dire patate? Ah non, j'ai cru.
Le principe du sketch, ouais. C'était. Elle joue les sketchs, mais elle ne les comprend pas.
J'ai cru qu'il avait fait de vraies recherches.
Bien sûr que non, sinon c'est pas rigolo.
Mais ça, c'était bien sûr.
En revanche, l'accordéon, c'est vrai.
Tout à fait.
Voilà. Bien sûr.
Maïlys de Kerangal, vous venez nous parler de votre dernier roman qui s'appelle Un monde à portée de main, paru aux éditions Verticales, comme vos précédents romans. Votre héroïne s'appelle Paula et elle entre dans la vie étudiante. En colocation, à Bruxelles, parce qu'elle a choisi de s'inscrire dans une école de peinture. École de peinture, on pourrait dire des peintures décoratives et trompe-l'œil.
Ouais.
Une école qui existe,
ouais,
c'est rue du Métal à Bruxelles.
Une vraie école
nous avons
qui existe dans la vraie vie.
C'est vrai, exactement. Alors on suit l'apprentissage de Paula, on suit son apprentissage de la peinture, son apprentissage de la vie avec ses colocataires. Paula, avec la peinture, elle se jette à corps perdu dedans, elle la vit passionnément. Est-ce que c'est vous dans l'écriture, un peu ?
Oui, oui, elle dit quelque chose de moi, elle me ressemble. En tout cas, moi, j'ai essayé de construire un personnage qui puisse, voilà, qui puisse dire aussi un peu qui je suis.
C'est-à-dire que quand elle peint la nuit jusqu'à presque épuisement et qu'elle... qu'elle met ses vêtements en boule et qu'elle tombe sur son lit.
Alors là, il y a quand même le mythe de l'écrivain complètement dans cette espèce de transe excessive, etc. C'est pas trop ça, mais en revanche, il y a une grande mobilisation. Il y a quand même un désir très fort. C'est très intense l'écriture et c'est aussi assez physique. Enfin, c'est vrai que ça peut être assez fatigant. Et Paula, dans le livre, elle vit une expérience aussi qui n'est pas que visuelle, cérébrale. Elle travaille debout toute la journée dans les vapeurs de térébenthine, le bras levé. Voilà, il y a aussi elle apprend tout ça.
Oui, il y a le corps et la matière, il y a l'aspect peinture et l'aspect apprentissage de la vie. Sur l'aspect apprentissage de la vie, elle choisit cette école de trompe-l'œil où on reproduit l'image du réel
les matières du monde, les marbres, les bois, les écailles de tortue. Elle choisit de faire son diplôme autour de cette matière-là.
Comme les lunettes d'Audrey Pulvar.
Oui.
Il
y avait pas une petite histoire d'ailleurs avec ces lunettes.
Le toit du Palais Royal de Bruxelles. Je crois qu'il y a des écailles de tortue, mais des vraies pour le coup.
Alors, comme les lunettes d'Audrey Pulvar.
Ça, par contre, sur les lunettes, j'ai pas d'infos.
C'était vrai.
Vérifier.
En tout cas, c'est une matière qu'on ne peut plus commercer, qui est absolument, c'est interdit de trafiquer de l'écaille de tortue, comme les défonces, etc. Et donc, ça devient très rare de savoir en reproduire. Donc, c'est une compétence qui a son prix pour quelqu'un qui se destine, à travailler sur des chantiers, à reproduire les matières du monde.
Oui, exactement. Est-ce que le roman, c'est le trompe-l'œil de la réalité?
Alors, le roman...
Est-ce que vous faites un peu pareil avec les décors, finalement, quand vous décrivez avec minutie, d'ailleurs, aussi, ce qu'elle utilise comme pinceau, comme couleur, c'est
alors,
extrêmement détaillé.
Moi, ce que je crois, c'est que le roman, c'est une forme absolument merveilleuse pour parler du monde et pour parler de la réalité. Mais il y a le langage. En fait, pour moi,
on fait comme si dans le roman. On fait comme si que.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on consent à croire des histoires qui sont fausses, qui sont inventées. Il y a une espèce, on suspend une espèce de pacte de crédulité que l'on a quand on ouvre un roman, c'est-à-dire une fiction. Et c'est vrai que Paula, elle découvre un peu les pouvoirs de la fiction, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le faux et comment justement par des matières par des formes de faux que sont les facsimilés, que sont les trompe-l'œil, que sont les romans, on peut avoir accès à des vérités, à des formes de vérité, à des formes de vie, à des émotions auxquelles nos petites vies parfois ne nous donnent pas accès. Et c'est ça un peu les pouvoirs du roman aussi.
Et c'est une période où elle découvre la vie étudiante. Elle est en colocation dans un petit appartement avec deux colocataires.
Petit appartement à Bruxelles, on est dans le 65 mètres carrés. C'est pas Paris. Hein.
Il y avait aussi là une plongée, une nostalgie de cette vie étudiante, de partager l'intimité avec d'autres personnes et cette même passion, parce qu'ils sont dans la même école.
Ouais, il y a quelque chose de cette nostalgie dans ce roman, qui est un roman un peu de sortie d'adolescence, c'est-à-dire des espèces de périodes vraiment d'entre-deux. Ils sont vraiment elle et son colocataire Jonas, qui au départ la regarde pas tellement et qui s'intéresse pas du tout à elle. Ils sont un peu sur le seuil, d'une période. Et moi, je trouve que c'est un moment, en tout cas, très enviable dans la vie d'être sur un seuil, c'est-à-dire à la place du commencement, au moment où ça va, où les choses vont advenir. Ça, je trouve que c'est assez beau, il y a l'idée d'une promesse, etc. Ils sont exactement dans cette position-là, l'un et l'autre. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de me rappeler des moments où, voilà, de mes années d'études où voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On s'engage dans des voies, souvent en suivant voilà, des formes d'intuition, mais sans forcément qu'elle soit appuyée par des vocations très fortes. Et là, Paula, elle arrive dans cette école, elle y atterrit un peu sans avoir vraiment une vocation de devenir artiste, etc. Mais quand elle la visite, cette école la magnétise. Il y a quelque chose de merveilleux et elle y entre.
Et il y a un bouillonnement entre les trois personnages. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié qui se noue dans cette grande jeunesse-là et qui perdure.
Ouais, il y a une espèce d'intimité très forte qui se crée dans cet appartement qui est lié vraiment à la communauté de vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se raconter mon père, ma mère, ils vont vivre ensemble. Et en fait, ils vivent des moments de très intenses de création. C'est-à-dire qu'ils sont quand même obligés de rendre des panneaux, de rendre des faux marbres, etc. Donc il y a ces nuits où ils travaillent côte à côte. Il y a plein de choses qui se passent entre eux. C'est un peu infraverbal, on va dire. Mais le fait, ils sont dans un bain émotionnel, physique, qui les rapproche et qui va les lier en fait pour toujours, parce que même ensuite quand ils se séparent à la fin de l'école, ils gardent des liens. Alors pendant les 7 années qui suivent et que l'on suit un peu dans le livre, ils se font des signaux voilà par internet, par Facebook, etc. Ils se lâchent pas vraiment parce qu'ils ont vécu ça ensemble. Vous voyez, c'est un peu avoir traversé des épreuves ensemble, mais des épreuves un peu physiques quand même aussi, vous voyez, qui demandent, il y a de la fatigue et puis il y a de l'amour.
Ça s'appelle Un monde à portée de main, paru aux éditions Vertical, le roman de Maïlys de Kerangal qui est en notre compagnie. Clara Dupont-Monod va y revenir tout à l'heure. Il y a Hippolyte Girardot et Guillaume et Alex, bien sûr. Vous êtes sur France Inter par Jupiter.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. Un peu trop longtemps et encore aujourd'hui et maintenant. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais.
Song for a Jedi, Dionysos.
Tout à fait.
France Inter. Oui, vous aviez reconnu. Hein.
Oui, alors, quand c'est en français, de temps en temps, je reconnais.
Nous sommes en compagnie de Maïlys de Kerangal,
et autour d'elle.
Eh bien, il y a Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Monod. Tout à l'heure, je vous parlais du toit en écaille de tortue du Palais Royal de Bruxelles. Ce n'était pas le toit, c'était le plafond. Ce n'était pas les tortues, c'était des scarabées. Mais j'avais partiellement raison, c'est Yann Fabre.
Vous êtes l'André Manoukian de l'anecdote.
Et c'était l'initiative de la reine Paola.
André Manoukian, dès qu'on dit une connerie, Twitter, hashtag par Jupiter, n'hésitez pas à nous.
Sentez que j'étais pas sûr de mon coup. Voilà. C'est comme les patates et ma liste de carangas.
Ça, j'aime bien les patates en breton.
Les actualités radiophoniques.
J'espère chercher des fusibles parce que vous avez envie de voir du sang et des larmes.
Le journal de presque 10 ans.
Vous aussi, vous avez vu la foudre?
Et on commence, il y a beaucoup de moqueries, j'ai l'impression, par rapport à mon anecdote autour de la table. Et on commence par les titres.
Invité de la matinale de BFM, Gérard Collomb a déclaré au sujet de Benalla: j'ai toujours pensé que c'était un policier.
Mais on peut se tromper. Hein. Nous, on a bien pensé à un moment que Gérard Collomb était de gauche. Le trompe-l'œil
de Gérard Collomb.
Le procès de Booba et Caris s'est ouvert aujourd'hui à Créteil pour leur bagarre à Orly.
Oui, c'est bien de s'occuper d'une bagarre et de trois bouteilles de parfum cassé. Sinon, Cahuzac, quand est-ce qu'il va en prison, Cahuzac?
Des brèves,
oui, parce que moi, je suis comme Gérard Collomb. J'ai toujours cru que les brèves, c'était de l'information. Et donc ce matin, face à Jean-Jacques Bourdin.
GG Collomb, oui. Et il a assuré que Redouane Faïd n'échappera pas à la police.
Oui, il est gentil. Mais déjà, qu'est-ce qu'il en sait? Déjà que Benalla avait échappé à la police alors qu'il croyait que c'en était un. Oui. On n'est pas gagnant.
Benalla trompe l'œil de la police. Autre matinale, celle de Radio Classique.
Oui, Guillaume Durand a très très mal attaqué son interview de Marine Le Pen.
Marine Le Pen, bonjour et bienvenue. Il y a deux aspects. Il y a la rentrée politique dans l'ensemble que vous allez commenter, puis il y a la rentrée politique du Front National. D'abord, le déplacement de Châlons en Champagne. Oui, du Rassemblement
ouais,
National.
Ouais, boum. Alors là, c'est pas bon. Et c'est possible que ça l'ait un peu énervé. Elle a un peu arrosé tout le monde.
Monsieur Macron, il va au Danemark pour vomir comme il le fait régulièrement sur les Français.
Et bim pour Macron, vous en voulez un peu pour Juncker? Allez hop.
Le seul soutien en réalité qui est le sien, c'est Madame Merkel et cette épave de Monsieur Juncker.
Et bim pour Monsieur Juncker. Elle est bien reposée apparemment. Hein. Les vacances, alors ça c'était bien.
Passons à ce sondage qui révèle qu'une majorité écrasante de Français pense que les lobbies ont trop d'influence sur les politiques.
Oui, sans doute un sondage réalisé sous l'influence du lobby, des Français anti-lobby.
Justice à présent avec le procès des rappeurs Booba et Caris qui s'est ouvert aujourd'hui à Créteil.
Et là, je vais vous dire, j'espère qu'ils vont prendre perpète parce que...
Pour une bagarre, vous êtes un peu dur.
Ah non, pas pour une bagarre, c'est pour l'ensemble de leur carrière musicale. J'espère qu'ils vont prendre cher.
Chanson, toujours, avec Mireille Mathieu, voilà. Qui a été distinguée en Russie par l'une des plus prestigieuses universités du pays.
Mireille Mathieu, distinguée par une université, c'est un petit peu comme si Gérard Depardieu était honoré par White Watchers.
On revient en France, où les noyades ont été en forte augmentation cet été. Il y a près de 500 personnes qui ont disparu entre le 1er juin et le 30 août.
Oui, il était donc urgent de nommer Roxana Maraciné à nous, au gouvernement.
Science. Le premier porno officiel avec un robot sexuel est né. Le film a été produit par les studios Private et dure 28 minutes.
Et on dit merci qui? On dit merci Wally et Michel.
Wally et Michel. Le footballeur Olivier Giroud révèle qu'avant chaque match de la Coupe du Monde, il en demandait un peu plus au Seigneur.
Et je pense là qu'on peut clairement affirmer que Dieu n'existe pas. Il n'en a pas mis un dans les cages pendant toute la Coupe du Monde, Giroud.
People, après avoir fait une dernière veillée sur la tombe de Johnny, Laetitia a confié qu'elle avait passé une nouvelle étape dans le deuil.
Voilà, la voie est donc libre pour une idylle avec Charles Aznavour.
Allez, de brèves.
Yves Tauf, les enfants font la loi, interdiction de fumer sur les trottoirs des écoles.
Ça se passe en Seine-Maritime et donc via une assemblée de jeunes citoyens, ils ont interdit aux parents de fumer devant les écoles.
Voilà, si ces gosses vous font chier avec cette interdiction, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sachant que la cigarette rend stérile, il fallait en plus fumer plus avant.
La dernière.
Et au Canada, une serveuse licenciée pour avoir refusé de porter un soutien-gorge au travail. Est-ce qu'il nous resterait une place de chroniqueuse peut-être éventuellement? On va voir ce qu'on peut faire.
Maëlys de Kerangal est avec nous. Son roman Un monde à portée de main est paru aux éditions Verticales. Et voici un sujet qui va nous emmener d'ailleurs vers ce roman. Aujourd'hui, pour orienter son avenir, le jeune s'en remet au logiciel de Parcoursup. 3000 bacheliers sont toujours sans nouvelles aujourd'hui. Et pour la médecine, ils s'en remettent au numerus clausus, que le gouvernement envisage toutefois de réformer. Alors le jeune est-il victime de déterminisme?
Alors, c'est fini les cours du soir? Tu l'as eu cette fois? Bravo!
Ben non, qu'est-ce que tu racontes?
Mais si, t'es sur la liste, là.
Justement, ça c'est la liste de ceux qui l'ont pas eu.
je suis désolée pour toi, mais tu sais, c'est pas grave, c'est des trucs qui arrivent, faut pas te démoraliser.
Ah ouais, sauf que ça fait 4 fois de suite que je le loupe. De toute façon, c'est toujours les camps qui sont récompensés dans cette fac.
Non, mais faut pas dire ça. Et puis, toi, tu vas pouvoir profiter de tes vacances au moins. Tu pars, toi et ta copine?
Non, enfin si, enfin non. Elle part, mais avec le type qui est tout en haut de la liste de ceux qui ont eu leur examen.
Bon bah, salut, hein. Et puis, bonne chance pour avoir de la chance.
C'est Vima Laponce et Esteban dans La fille du 14 juillet, film d'Antonin Peret-Jatko. Alors, Parcoursup fonctionne selon l'offre de la loi, de l'offre et de la demande. Même Le Figaro le dit aujourd'hui. Donc, voilà.
Donc, c'est validé.
Non, mais c'est bon. Ah, voilà. Ouais. Y a même un surbooking de 10% dans les facs parisiennes. Donc là, on est un peu dans une vision libérale des choses, quand même. Et puis, en médecine, il y a toujours ce numerus clausus pour l'instant. Alors, est-ce que vous pensez, Maëlys de Kerangal, que les jeunes qui entrent même pas dans la vie active, qui aspirent, qui ont des rêves, sont victimes de déterminisme, de choses qui les dépassent à ce niveau-là?
Oui, je repense à ce que, enfin, je viens d'entendre la phrase de Vima Laponce, la bonne chance pour avoir de la chance. En fait, cette histoire de Parcoursup, qui voulait réinjecter justement de l'égalité un peu dans ce parcours post-bac, et pas tellement plus égalitaire que l'ancien APB où il y avait pour le coup là un vrai tirage au sort. Et en fait, moi j'ai le sentiment quand je vois voilà les 3000 personnes qui sont sur les 3000 étudiants qui sont sur le carreau, etc., que on est un peu face à une histoire de casino. Il faut décrocher la martingale et en fait, là, il faut se mettre quelque part. Il faut qu'on se fasse une place. Et finalement, c'est comme si ceux qui étaient favorisés, c'était ceux qui avaient le plus de compétences informatiques, ceux qui maîtrisaient le mieux le truc complètement incompréhensible de parcours
ou des capacités à apprendre plus.
Alors ça, ce serait plus pour l'histoire de la médecine, parce que c'est vrai que ce qu'il y a de vraiment spécial avec les étudiants en médecine qui sont réputés pour être, en tout cas la première année, les plus dures, les plus violentes, celles où il faut le plus bachoter, etc., on devient des bêtes à concours, c'est que précisément, on a l'impression que les études de médecine, vraiment, elles commencent en deuxième année. La première année, c'est qu'une année pour sélectionner et en fait dégraisser un peu toute cette foule d'étudiants. Donc ça, c'est, il n'y a pas du tout de parcours d'acquisition des compétences. La première année de médecine, c'est de la casse en fait. Et du coup,
c'est de la casse qui est comme, c'est-à-dire que nous on a ça aussi dans les écoles de commerce, c'est-à-dire qu'on a de la chimie, de la physique, ce qui sert pas à grand chose, mais ça prouve aussi que l'étudiant a les capacités intellectuelles pour apprendre des matières et donc pouvoir.
Ouais, mais en même temps, on peut se dire aussi que ce qu'on apprend, c'est à apprendre par cœur, à bachoter, et c'est celui qui va pouvoir faire ça 18 heures par jour qui va le sentir. Est-ce que c'est ça qui va
faire un bon médecin?
Ouais, on peut quand même s'interroger vraiment sur, en tout cas, sur l'idée qu'il y ait une année qui soit dédiée à cette sélection et le fait que ça démarre réellement la deuxième année. Ça c'est vraiment propre aux études de médecine. Je pense quand même qu'en dans les écoles de commerce, on est un peu plus rapidement dans le vif du sujet,
chez
non
nous,
croyez pas.
En médecine, le numerus clausus, il arrive à la troisième année. Et donc, c'est parfois encore plus frustrant parce que les mecs ont fait 3 années d'études et donc, et puis, ça commence à être bon. Ouais. Et on leur dit, non, c'est kiné. Ah,
et, bon. Et nous avions pensé à ce sujet car Paula, en choisissant le trompe-l'œil, peut-être essaye d'échapper aussi à ce déterminisme.
Oui, Paula, elle commence par faire d'abord une année en droit au prétexte que le droit mène à tout. Donc, c'est l'idée, elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Ouais. Parce que dans cette histoire de Parcoursup, il y a aussi l'idée que chacun doit quand même établir ses vœux. Des listes, parfois, il faut mettre 17 ou 18 vœux, etc. Et après, on maintient ses vœux, on lâche là, mais on se maintient là, etc. Donc, il y a des stratégies en permanence, mais qui révèlent aussi une forme d'incertitude. Est-ce qu'on sait vraiment le parcours que l'on veut faire quand on a 18 ans? Je ne sais pas bien. Il y a ceux qui ont des vocations. Pour le coup, la médecine, là, ce qui est un peu différent, c'est que la médecine, ça induit quand même qu'il y ait une vocation. C'est pas un métier assez vague, ça induit immédiatement des formes de relations, etc. Une pratique que l'on connaît un peu, qui est en tout cas qui a quelque chose d'un peu concret.
Maëlys de Kerangal. À côté de vous, il y a Hippolyte Girardot qui a fréquenté les Beaux-Arts, si je ne m'abuse.
Mais non, c'était non. L'école des arts décoratifs.
Ah,
c'est pas tout à fait.
Ouais, c'est pas pareil. Ah,
pareil. Dans mes jeunes années, justement, quand j'écoutais les premiers albums de Soft Machine, où la voix de Robert Royat, que vous entendez, était déjà une sorte de trompe-l'œil de la virilité, J'avais fait l'objet d'échanges estudiantins entre l'école des arts décoratifs, où j'étais étudiant moi-même, et l'école Van der Kullen, où votre héroïne, Paula Karst, apprend l'art complexe du fac-similé, notamment des marbres et des bois. Je n'y ai pas rencontré votre personnage, mais une jeune apprentie en trompe-l'œil, Ophélie, qui avait repeint sa chambre de bonne située rue du Brabant pour donner l'illusion qu'on était en pleine forêt. Sur le mur de gauche, un étang disparaissait dans les brumes du matin. Des nuages blancs dormaient au plafond et derrière les bosquets, la forêt semblait profonde, comme tout le reste, comme Ophélie, qui, elle, n'était pas un trompe-l'œil. No, it's real. Voilà, bon, comme on dit dans les interviews, les prénoms ont été changés. Bon, l'art du trompe-l'œil est une des plus anciennes ambitions artistiques de l'humanité et il y a dans la réussite de l'illusion une sorte de victoire sur les réalités. Les grands maîtres italiens peignaient des faux balcons dans les églises, garnissaient de statues en deux dimensions les hautes colonnes de ces mêmes églises. Michel-Ange a même représenté le paradis sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et il peignait là, des mois durant, à 15 mètres de hauteur, couché sur un échafaudage pour illustrer le plus grand fantasme de la conscience humaine, car la religion, c'est comme le trompe-l'œil, il suffit d'y croire. Dans nos temps troublés, où le réel semble grignoté par le virtuel, où les mondes imaginaires numériques dopés par l'adrénaline du jeu et de la compétition nous procurent des émotions pourtant très réelles et puissantes, l'art de tromper son monde est devenu bien plus sophistiqué qu'à l'époque de la visite de Catherine II en Crimée. Je rappelle que son ministre de l'Intérieur, son Gérard Collomb, qui s'appelait à l'époque Potemkin, avait demandé à des décorateurs de théâtre de peindre de grandes et belles façades pour recouvrir les taudis le long du parcours de l'impératrice. Et oui, s'illusionner nous permet, c'est vrai, d'échapper au réel, toujours trop dur, trop complexe, trop violent, bref, trop réel. Et j'en sais quelque chose en étant comédien, puisque j'ai passé l'été à faire croire que j'étais Léon Blum. Mais, se leurrer avec ses propres fantasmes peut être un terrible piège. Les deux rappeurs en procès aujourd'hui avaient probablement l'illusion de tourner un clip de bagarre de rue dans une parfumerie d'aéroport. Le cher Benalla se croyait vraiment un serviteur de la nation quand il tabassait place de la Contrescarpe. Et j'ai même entendu dernièrement une personne dire qu'elle voudrait être une femme noire pour ne pas se faire emmerder. Eh bien, c'est une illusion de plus. Alors, une présentatrice de la météo sur la RTBF, Cécile Djunga, a posté hier sur son compte Facebook une déclaration plutôt bouleversante. Elle disait que... Hier au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements et que je ne passais pas bien à la télé et qu'il fallait me le dire. Et ensuite elle le faisait en imitant l'accent belge, c'était très drôle et ça l'est devenu beaucoup moins quand elle nous a appris que cela faisait presque un an qu'elle recevait ce genre de messages racistes, qu'elle subissait ce harcèlement et qu'elle n'en pouvait plus.
Recevoir des... Sale négresse rentre dans ton pays, en fait, c'est pas drôle, quoi.
Eh non, ça n'est pas drôle, Cécile, c'est vrai. Et autant pour l'illusion de cet homme blanc d'imaginer qu'être une femme noire le protégerait d'être emmerdé.
Hippolyte Girardot, merci pour cette très belle chronique. Sur Twitter, une certaine Ophélie dit enfin, Hippolyte, je vous ai retrouvé. On vous laissera les coordonnées.
Je le confirme.
Merci, Hippolyte.
Mais la petite chambre de bonne, c'est vrai.
C'est vrai.
Avec la forêt.
Ça se sentait dans votre voix, Hippolyte.
Ouais, c'est vrai. C'est... Je suis trop émotif, mais c'est pas, mais c'est pas un job pour moi.
C'est normal.
C'était la semaine dernière, c'est normal.
Shannon Shaw, Broke My Own. Vous êtes sur France Inter avec Maïlys de Kerangal. So just leave me. I'm
myself too. I hope it wasn't wrong.
Maïlys de Kerangal est avec nous aux éditions Verticales. Elle publie Un monde à portée de main. Clara Dupont-Monod va nous en toucher un mot tout à l'heure. Et Maïlys de Kerangal, nous allons passer de ce qu'on vient d'écouter, Shannon Shaw, à Booba et Caris. Grâce à qui ? À Guillaume Meurice.
Exactement, je vais vous parler bagarre aujourd'hui. Vous savez, moi je suis pas le dernier pour la castagne. J'ai un master 2 en violence à l'université de Joey Star de Saint-Denis. Je suis un fou de baston. C'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me crois pas, Dupont-Monod ? Tu veux te battre ? Viens, on sort, viens, on se tabasse, viens ! Excusez-moi, pardon, je suis un petit peu chaud parce que je suis... Allez, ouais, ouais, pardon, ça m'a ému tout ça. J'étais au tribunal, en fait, avec Booba et Caris pour l'ouverture du procès. Ah, voilà, Booba et Caris qui, je vous rappelle, donc on confondu le shopping avec du free fight. Alors, moi, je veux pas prendre position pour l'un ou pour l'autre, hein, essentiellement pour des questions de lâcheté, en fait. Donc, j'ai interrogé les soutiens des deux camps. J'ai pris des risques, mais bon, voilà, je vous rappelle que j'ai également un CAP Bernard de la Villardière. Donc, ne le faites pas chez vous, hein, ça, c'est un truc vraiment de professionnel. Et donc, chaque camp a son avis. Alors, par exemple, ce monsieur, qu'est-ce qu'il écoute ?
Caris, jamais. Ici, dans ce quartier-là, on n'écoute jamais Caris.
Ah bon, pourquoi ?
Parce qu'il est trop vulgaire pour un père de famille.
Mais Booba, il n'est pas vulgaire ?
Il est vulgaire, mais avant, il n'était pas vulgaire.
Ouais, c'est avant. Avant, il n'était pas vulgaire. Aujourd'hui, il est vulgaire, Booba, on le sait. D'ailleurs, il est dans la playlist France Inter, je le rappelle, bien calé entre Juliette Armanet et Eddie Depreto. Bon, là, s'il y a un clash, c'est dans une biocop. Entre le rayon graines de chia et l'anti-corail, ça peut friter, mais c'est tout. Mais rappelons-nous quand même avec bonheur du bon temps où Booba n'était pas vulgaire. C'est juste moi dans ton cul, t'as cru qu'on était plusieurs. Bon, là c'est 2011, donc c'était il y a seulement 7 ans. Mais quand on dit Booba avant, il est pas vulgaire, on parle du Booba de 2006, avec plutôt ce genre de texte.
Tu peux la merde, même si t'as trop traîné ton cul sur les bancs de la fac, je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte.
Ouais, alors bon, ouais. Attendez, oui, parce que
il y a une poésie,
Il y a une poésie, mais quand on dit pas vulgaire, on parle d'avant, avant qu'il écrive des textes, voilà, avant qu'il sache parler. À 3 mois, Booba était pas vulgaire du tout. C'était Stendhal, Booba, on l'appelait Stendhal d'ailleurs. Et c'est après, ça a merdé. Alors, allons voir. Je sens que ça fout la merde, cette histoire. Allons voir également donc des gens qui défendent plutôt Caris. J'en ai trouvé aussi, bien sûr. Et ils défendent pas qu'un peu.
À 100%, 1000%, tout ce que vous voulez, Caris.
Pourquoi alors ?
Parce que Booba, c'est le genre de personne qui cherche à provoquer les gens pour faire son buzz ou son argent. Et Caris, je le vois pas du tout comme ça.
Et c'est quoi votre punchline préférée de Caris ?
C'est si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier ?
Ouais, donc on n'est pas sur un gars qui cherche à provoquer les gens. Hein. C'est un gars qui est plutôt dans une démarche scientifique, je dirais. Parce que quelque part, c'est de l'anatomie. Hein. Donc moi, je dis chapeau, professeur Caris. Alors qu'on est dans l'apaisement, on peut aller plus loin dans l'apaisement.
Je vais être honnête avec vous, je déteste les deux. Donc comme ça, au moins.
Oui, carrément, ouais.
Ouais, voilà. Donc moi,
vous êtes venu les voir quand même.
Voilà, je suis venu voir justement comment. Le procès allait se dérouler pour éventuellement une sanction. Je trouve que ça serait mérité vis-à-vis des gens et des enfants qui étaient autour. C'est quand même plus ou moins dangereux. Donc,
Vous êtes venus les voir galérer.
Voilà.
Voilà, on espère qu'ils vont bien en chier tous les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On est vraiment dans l'apaisement. Ça, je respecte. Démarche responsable. D'ailleurs, ce monsieur, c'est qui son rappeur préféré ?
Moi, je suis Rof. Hein, ici, on est à Créteil. Donc, moi, c'est 94. Puis, il a beaucoup de valeur. Et même si, voilà, il a fait des erreurs aussi. Mais voilà, je leur souhaite
pas. Rof, il est un peu baston aussi, non ?
Ouais, bagarre aussi. Mais bon, j'ai eu le petit problème dans la boutique avec quelqu'un qui est blessé, qui a été dans le coma.
Ouais, il a juste envoyé un mec dans le coma. Mais vous allez quand même pas faire vos mijaurés. On va pas commencer à gueuler dès qu'on tabasse un mec à 15, c'est des bonhommes, hein, c'est comme ça. Enfin, d'ailleurs, je dis des bonhommes, il y avait des jeunes filles aussi ce matin, pourquoi ?
C'est parce qu'on les connaît un peu, on écoute un peu leur musique, c'est pour ça.
Et vous n'avez pas cours d'ailleurs ?
Non,
ceci. Vous ratez cours de quoi ?
On avait cours de quoi ?
Soins palliatifs ?
Ouais. Cours de soins palliatifs, d'accord. Alors, cours de soins palliatifs pour aller voir le procès. Donc, sachez-le, si vous manquez de morphine dans 20 ans, demandez la playlist de France Inter. Voilà, ça fait le même effet.
Numerus clausus, à mon avis.
On peut en parler. D'ailleurs, puisqu'on parle de fin de vie, il y avait aussi devant le tribunal d'autres filles, disons d'un âge plus avancé, disons le fan club d'Alex Vizorek, pour résumer, qui ont connu, elles, des clashs entre Daniel Guichard et Georges Moustaki, avec la violence qu'on connaît, hein, des pulls jacquard troués, des pantalons. pantalon en velours côtelé déchiré. Alors, elle supporte plutôt Booba ou Carice?
Je ne les connais même pas, je ne sais même pas ce qu'ils sont.
Bah, c'est les chanteurs, comme on dit.
Oui, oui, qui aussi sont battus dans le hall de...
Ouais, ça vous a choqué ou pas?
Qu'est-ce qui pourrait nous choquer, cher monsieur, maintenant?
Voilà, quand des clashs de rappeurs ne choquent même plus le troisième âge, je pense que ta carrière de rebelle est un petit peu niquée. Moi, je vous laisse, je vais organiser un combat de boue entre Dominique Seux et Marie-Pierre Planchon pour booster les audiences du 7-9. Au KLM, mes gueules.
Merci Guillaume Meurice, avec aujourd'hui Élise Christophe à la technique et toujours bien sûr Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. C'est Maëlys de Carangal qui est notre invitée et on va aborder ce deuxième sujet.
On parle des jambons,
sujet.
Hein, donc
sujet 3 sur le jambon.
Un petit peu pour ça.
Fabriquer soi-même son jambon. Mais avant ça, un Français sur 5 avoue avoir déjà fouillé dans le téléphone ou l'ordinateur de son conjoint. Ça peut être le début d'une spirale infernale de la jalousie et de la paranoïa qui a déjà poussé certains à planquer un GPS sous la voiture de sa femme ou suivre ses déplacements par drone. Alors revenons aux motivations premières de cette démarche.
Monsieur, tu sais pas toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais.
Et tu sais quoi, Dave, t'en as la preuve formelle.
Elle s'appelle Andy, fille de la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite, il est appliqué. J'ai même l'adresse de l'hôtel.
Les confessions nocturnes, ça pu être un titre de Chopin, mais c'est Diams et Vita. C'est un article paru dans Society, un article intitulé « L'espionne qui m'aimait » et qui explique que la jalousie a désormais des outils performants à sa disposition. Maëlys de Guérangal, vous qui êtes romancière, est-ce que vous pensez que ça peut enclencher une spirale jusqu'à planquer des micros sous des tables et que ça peut être le début, comme une drogue, d'une spirale infernale et d'aller très très loin? Est-ce que c'est un sujet qui vous inspire un peu?
Oui, enfin moi je trouve qu'il y a aussi dans cette histoire-là la disparition des petits métiers, parce que où passe le détective privé?
Aujourd'hui il est hacker.
Et c'est un personnage de roman noir qui disparaît vraiment.
Mais on le devient tous finalement.
Si on le décide.
Si on le décide, bien sûr.
Avec là, en planquant des machines, etc., en plaçant des GPS en s'infiltrant dans les téléphones, etc., finalement, on se passe d'une figure romanesque, très belle, et qui a été une grande figure du roman. Mais sinon, évidemment que la jalousie, c'est un démon.
Est-ce que vous l'avez déjà fait?
De
fouiller dans le répertoire ou le
téléphone. Êtes chez Mireille Dumas.
Fouiller, non.
Où est-ce que vous vous en protégez? Vous dites, oulala, là je suis dans un endroit où je voudrais pas que les gens saisissent mon téléphone.
Est-ce que vous cherchez une victime de première main? Vous voulez un témoignage, quelque chose?
Si vous avez un témoignage, oui.
Avec les oreilles de l'autre côté du téléphone. J'étais dans la douche parce qu'à un moment il faut être propre et il s'était pas verrouillé tout de suite. Et on est dans une merde noire après.
C'est quelque chose que vous ne conseillez pas.
Alors
je
déconseille totalement. D'accord. Bien entendu.
Téléphonez sous la douche.
Oui, prenez-le.
Lavez-vous avec l'iPhone.
On en achète un nouveau tous les matins.
Mais justement, le fait que chacun puisse déclencher un élément modificateur dans la vie, parce que si on va voir dans le téléphone ou dans l'ordinateur, on va forcément trouver des choses chez chacun. Et est-ce que pour un romancier, c'est tout de suite, c'est une forme d'inspiration, parce que ça peut basculer tout de suite pour on bascule plus rapidement dans le drame, non?
Mais alors pour moi en tout cas je préfère qu'il y ait des plages de silence, de obscur, de mystère. Enfin, j'ai pas envie de tout savoir et j'ai pas non plus envie qu'on sache tout de moi. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Pour le coup, je trouve que le secret c'est assez beau.
Cela dit, vous êtes comme les 4 Français sur 5 qui n'ont jamais fouillé dans le téléphone ou l'ordinateur.
Il y a un film italien qui raconte ça très bien, des amis se réunissent à dîner et une des personnes dit, on va faire un jeu, tiens, on va tous poser notre téléphone là, ouvert, sans verrouillage, ensemble, et on va continuer à dîner, puis on va voir qui va recevoir le premier message. Et bien sûr, ça se passe très mal. Et c'est assez drôle parce que c'est italien, ils ont fait un remake en français, je sais pas quand ça sort.
Ça sort bientôt, ça s'appelle Le Jeu.
Avec Stéphane de Groot.
D'accord. Voilà,
C'est là-dessus, quoi, effectivement. Voilà.
C'est un nouvel élément.
Le film italien est génial.
Un nouvel élément de société et d'accélérateur dramatique.
Je peux clore par une citation que je trouve très belle. Quand on regarde par la serrure, de temps en temps, on prend la clé dans l'œil.
Oh, c'est joli.
C'est magnifique. Merci.
Ça sent le vécu. Voilà.
Beau duo entre Maëlys de Kerorgal et Alex Vizorek pour les réponses à ce sujet. Vous pouvez retrouver donc
sur le jambon, j'aurais rien à dire.
Avant le jambon, il y a Clara Dupont-Mono, si je puis dire.
Meilleur lancement.
Alors la transition de l'année. Avant le jambon, il y a Dupont-Mono. Oui. Oui, parce que Charline, l'actualité, c'est bien sûr le livre de notre invité, Maëlys de Kerorgal, donc Un monde à portée de main. Alors Maëlys, vous aviez fait Naissance d'un pont, ensuite Réparer les vivants, voici un livre sur la peinture. Donc si on résume, un peu taquin, mais il y a l'ingénierie, la transplantation, la peinture. En fait, vous êtes à vous seul un conservatoire des arts et métiers de la littérature française, puisque vous abordez tous les domaines. Cela dit, non, ce que je viens d'avancer n'est pas tout à fait exact, parce que Un monde à portée de main, je trouve que ça n'est pas un livre sur la peinture, mais c'est un livre sur les peintres. Ouais. Vous plongez et vous disséquez le cœur, la mémoire, les buts de Paula, donc votre personnage principal, qui sait comme personne faire donc apparaître des marbres, des boiseries ou des feuillages sur un mur tout nu. Il se trouve que Paula a une particularité dont on n'a pas encore parlé et qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'elle louche. Alors, elle a des yeux vairons, c'est-à-dire un clair, un autre sombre, mais il y en a un des deux qui dévie. Et, pardon, mais qu'est-ce qu'elle fait, je le rappelle, de la peinture en trompe-l'œil, comme par hasard. Et donc, je trouve ça très logique, puisque tromper l'œil, ça veut dire créer le doute, c'est-à-dire... Mais elle me regarde ou pas? Parce que c'est ça qu'on se demande devant quelqu'un qui a un œil qui va sur la droite ou la gauche. Et de la même façon, devant un faux marbre, c'est mais c'est du vrai marbre ou c'est du faux marbre? Et donc, pour le dire autrement, je trouve que votre Paula a le physique de son art. En fait, c'est qu'elle incarne littéralement, son visage en fait, incarne littéralement la vocation de sa main. Et ce faisant, elle rejoint pour moi la cohorte des personnages magnifiques qui peuplent notre littérature, qu'on pourrait nommer les imparfaits, c'est-à-dire ceux dont le corps n'est pas conforme. Et dans cette grande cohorte, je vois par exemple, j'entends surtout le pas claudiquant de Gervaise dans l'Assommoir d'Émile Zola, Gervaise qui boite et dont la vie finalement est aussi bancale que la démarche. Je vois aussi tous ces pirates à qui il manque un œil et qui malgré tout savent quand même diriger les navires dans le brouillard, donc autrement dit qui sont visionnaires. On peut même ajouter, tenez, visionnaire Jean-Marie Le Pen avec son œil de verre. Non mais je plaisante, c'était une blague de Charline. Je vous avais dit qu'il fallait pas la faire ce matin et je l'ai faite. Mais nous sommes facétieux dans cette émission et parfois nous tapons à côté quand on écoute La Bosse et c'est ainsi fait. Alors, il se trouve que ce savoir est un peu magique.
Vous auriez pu rire, c'était ma blague.
Oui, c'était tout pourri. Alors, le savoir qu'a Paula, parce que comme elle en a un, cette faculté de faire apparaître du faux vrai avec du rien. Ce savoir un peu magique, il se trouve que son entourage et même le lecteur, on le comprend pas tout de suite. Pour preuve, quand elle est petite, Paula, son strabisme, elle le vit pas très bien. Elle le vit, je vous cite, comme quelque chose de bizarre, de désaxé, une anomalie. De plus, ses cousins lui balancent à table « tu ressembles à Dalida », donc évidemment ça n'arrange rien. On lui met des compresses, on lui met des caches, elle suit des cours de rééducation, elle en a ras-le-bol, jusqu'au jour où sa mère, devant le médecin, enlève tout le pansement et dit, je cite, « ça suffit comme ça, on va le laisser un peu tranquille cet œil, il fera l'affaire ». Et voilà donc Paula qui accepte son regard indocile, dévié de l'axe de la norme, jusqu'à en faire un métier, puisque fabriquer l'illusion, c'est rien d'autre finalement qu'un décalage par rapport au prévisible et à l'attendu. Forcément, il y a un prix à payer pour cette illusion-là. C'est-à-dire que Paula fait partie de ces travailleurs nomades que vous décrivez très bien. Ils sont ultra débrouillards. Ils parlent mal de nombreuses langues et couramment aucune, écrivez-vous. Ils sautent dans des avions, ils trouvent un logement, ils s'adaptent le temps d'un chantier, ils repartent. Avec une crainte vissée dans le cœur, c'est qu'on les oublie. C'est qu'on pense pas à eux pour la réfection de telle villa ou pour la construction de tel décor dans un cinéma, pour le tournage d'un film. Résultat, je cite, Paula n'est pas en mesure de réaliser que la précarité est devenue la condition de son existence et l'instabilité son mode de vie. Elle ignore à quel point elle est devenue vulnérable et méconnaît sa solitude. Voilà. Et ça, alors Maëlys de Kerorgal, bien joué, ça parle à mort à la conscience gauchisante
de Guillaume Meurice, qui est là, le seul porte-parole des précaires aux poches pleines, quand même. Mais Guillaume Meurice, je parie sur votre intelligence.
C'est toute l'histoire de la gauche, hein,
elle a raison, mais sur le fond. Mais je parie quand même sur votre intelligence, j'aime les jeux de hasard. Et voilà pourquoi je vous redonne les références. Le Monde à portée de main de Maëlys de Kerangal est paru chez Vertical.
Merci beaucoup, Clara Dupont-Mono. Maëlys de Kerangal, le strabisme et le trompe-l'œil. Il y avait donc une volonté ou...
Exactement. Ouais. Je dois dire que je suis assez impressionnée par ce que je viens d'entendre, parce que je trouve que c'est vrai que cette histoire que l'héroïne incarne physiquement, finalement, son métier, enfin en tout cas qu'elle possède les yeux ad hoc pour créer l'illusion, c'était aussi comme ça que j'avais construit ce personnage.
Nous allons enfin passer à ce sujet sur le jambon sans transition. Venez fabriquer votre jambon. Oui, car on vit dans un monde où une marque de charcuterie industrielle invite ses clients à venir fabriquer son jambon au nitrite. Alors, on ne va pas se défiler devant ce sujet, bien sûr, on va l'affronter. S'il existe une école du trompe-l'œil, il doit exister une école de la charcuterie. Voilà, c'est tout.
Maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on fait pour préparer le boudin? Oui, non, personne. Neuf, neuf, qu'est-ce que je viens de dire?
Vous avez demandé comment on fait du boudin.
Et alors?
Alors on prend un cochon et puis on l'égorge, écrit comme un goré, après le sang il se vide dans une bassine, on fait cuire, ça fait du boudin. Et vous savez comment je le sais? Parce que je suis un cochon.
C'est un extrait de Neuf Neuf à l'école de charcuterie, car nous avons des références.
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, c'est Léa, avez-vous déjà vu? Il faut absolument regarder ça.
C'est un dessin animé, c'est génial.
Ouais. Alors, Alain Chabat.
Admettons que l'épilogue de l'histoire, c'est Michel qui se retrouve de son propre chef affublé d'une charlotte et d'une blouse blanche dans l'usine Herta en train de fabriquer son jambon comme la marque l'y incite. Est-ce que l'écrivain peut éventuellement imaginer et nous expliquer comment on a fait pour en arriver là?
Mais moi en tout cas je serais tout à fait preneuse d'aller dans l'usine Herta pour voir comment on fabrique du jambon et voire même fabriquer moi-même mon propre jambon.
Je vous donnerai l'adresse,
que ça soit pas forcément un village Potemkin, comme que ça soit pas une fausse usine avec des fausses personnes, vous voyez, une espèce de propagande.
Non, à mon avis, c'est pas une opération de com.
Non, bien sûr que non. Viens voir par toi-même. À une époque où il y a à peu près un scandale sanitaire par mois, c'est pas mal comme. Mais voilà, je me disais, en tout cas, si jamais on peut assister à tout le processus, c'est-à-dire y compris la naissance du cochon et puis son abattage, hein, oui, Monsieur Cochon.
Plus jamais vouloir en bouffer. Hein.
Bah voilà, c'est ça.
Je pense que c'est intéressant. Puis moi, c'est des moments que j'aimerais bien pouvoir.
Vous êtes curieuse de
pour
ça.
Pour moi, ça m'intéresserait en tout cas d'assister à ce processus de la bête à la barquette. Ça peut être pas mal.
Est-ce que vous n'y voyez pas le signe que peut-être les marques, alors c'est pas qu'elles se sentent un peu coupables, ça c'est visé beaucoup, mais un peu moins dans l'impunité qu'avant, si elles ont besoin de communiquer là-dessus. Est-ce que vous n'y voyez pas le signe d'une petite progression quand même?
C'est quand même des... Surtout, enfin, on peut pas visiter un abattoir, enfin c'est des lieux qui sont quand même extrêmement inaccessibles, en tout cas très contrôlés, et là tout d'un coup, on ouvre les portes, venez voir, venez vous-même.
Tout ça, un peu grâce à Lise Lucet, qui cache l'investigation sur le jambon, voilà. C'est une des réponses. Et on a bien traité ce sujet jambon, je suis assez fière.
On a assez peu entendu Guillaume Meurice et son côté vegan.
Oui. Si, moi je suis assez pour que tout le monde aille visiter les abattoirs. Ouais. On verra à la fin qui continuera à manger de la viande.
C'est un risque, effectivement. Alex Vizorek, est-ce que vous auriez un rôle?
Et bien sûr.
Pour notre invité.
Vous saviez très bien la réponse que j'allais vous donner. Tous les jours, j'ai un rôle pour l'invité. Hein, et il découvre son rôle. Parce que un sketch en lien avec l'actualité, c'est la succession de François de Rugy à l'Assemblée nationale. Trois candidats, dont deux candidates, Sandra Motin, que vous êtes, Barbara Pompili, c'est Charline, et Richard Ferrand. Ah. Guillaume, qui va s'en sortir, c'est la bisbrouille. C'est la bisbrouille dans le poulailler, on y va.
Poulailler, sexiste. Allez hop, du balai les mecs.
Exactement. Débarrasser le plancher.
Dis donc, les femmes de ménage, vous savez qui je suis exactement?
Ouais, t'es Richard Ferrand, le gars des Mutuelles de Bretagne.
Ah, et moi, tu peux m'appeler Sandra.
Et moi, Barbara.
Sandra, Barbara, pardon, mais on dirait un feuilleton sentimental.
Ouais, bah prépare-toi à chialer, mon bonhomme.
On est là pour accéder à la présidence de l'Assemblée nationale.
Girl power.
Une femme présidente.
Eh, mais attention, hein, pas un emploi fictif à la Pénélope Fillon.
Un vrai poste de présidente.
Ouais, et comment ça va se passer? Vous allez instaurer une commission tricot?
Et toi, tu comptes créer une commission casserole?
Ouais, tu veux qu'on parle de tes petites affaires dans le Finistère?
Mais taisez-vous, vous connaissez rien du tout, allez plutôt faire la cuisine, tiens.
Ah bah et bravo. Il est beau le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
L'ancien monde dans toute sa splendeur.
Dans deux minutes, on va avoir droit à... Mais qui va garder les enfants?
Oui, aussi, l'élection présidentielle n'est pas un concours de beauté.
Vous ne serez jamais à la hauteur, mon pauvre vieux.
Et pour le perchoir, c'est gênant, hein, c'est un manque de hauteur comme ça.
Alors c'est donc ça le nouveau monde.
C'est le renouveau des visages et des pratiques.
Mais
monsieur,
que diriez-vous plutôt d'un poste d'assistante?
Et pourquoi pas stagiaire tant que t'y es?
Bon, attends, écoutez les greluches là, cette petite mascarade elle a assez duré, moi je trouve.
Oui, nous sommes d'accord, oui.
Il est temps d'élire une femme présidente de l'Assemblée nationale.
Pourquoi pas un noir?
Non mais je rêve, c'est la République en marche arrière là.
Mais vous n'avez aucun soutien, de toute façon.
Je sais pas, il en dit quoi François de Rugy?
Il est sans doute trop occupé à boire un canon avec des chasseurs.
Et Emmanuel Macron?
Il est sans doute trop occupé à boire un canon avec des chasseurs.
Alors je déclare officieusement ouverte la chasse au ferrant.
Au ferrant rose?
Oh, 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 vous allez bien vous calmer les perruches là.
Non mais quel goujat!
Et toi, tu sais où elles vont finir les perruches?
Au perchoir. Très belle chute, très belle chute. Merci Alex Vizorek et Frédéric Fromet cette semaine. Merci beaucoup à Maïlys de Kerangal d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle les références de votre roman Un monde à portée de main, paru aux éditions Verticales, dans le monde du trompe-l'œil et de l'école de trompe-l'œil à Bruxelles, où il est 17h57 comme à Paris. Merci les amis.
Il y a un très très beau plafond en écaille de ce
Toulouse. Merci Hippolyte, merci Clara Dupont-Mono, merci Alex et Guillaume. Demain nous serons avec le chanteur Camini. Et donc dédions le mot de la fin à la précision.
Tout à l'heure, je vous parlais du toit en écaille de tortue du Palais Royal de Bruxelles. Ce n'était pas le toit, c'était le plafond. Ce n'était pas les tortues, c'était des scarabées. Mais j'avais partiellement raison.